Radio Okapi. Le journal avec Belinda Boussouma.
La localité de Bounagana est sous contrôle des FARDC, assure le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu. L'ennemi qui a attaqué tôt ce matin les positions de l'armée est en débandade pour chasser par les FARDC. Précision du lieutenant-colonel Njike Kaiko. Vous l'entendrez. Le roi des Belges et sa suite ont séjourné à Bukavu ce dimanche après l'étape de Lubumbashi. Une visite de quelques heures qui les a conduits notamment à l'hôpital général de Panzi où le roi Philippe a rencontré le docteur Denis Mukwege. Il a aussi rencontré la communauté belge vivant au sud Kivu. Et puis, l'invité de ce soir, César Matumo, coordonnateur intérimaire de la protection civile à Butembo. Il nous parle du système d'alerte précoce mis en place au sein de la communauté en vue de protéger la population de l'insécurité dans la région. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part du Nord Kivu. La localité de Bounagana est toujours sous contrôle des forces armées de la RDC. Confirmation du porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Nord Kivu. Les FARDC se comportent bien sur la ligne de front, dit-il. L'ennemi qui a attaqué tôt ce dimanche les positions de l'armée est en débandade aux environs de Bounagana et les FARDC les pourchassent. Précision du porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2, le lieutenant-colonel Njike Kaiko. On l'écoute.
Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de déjouer les attaques de M23 et leurs alliés, les Rwandais. Ils ont tenté d'attaquer des de nos positions en profondeur de Bounagana, c'est notamment à Bigega 1 et Bigega 2. Mais aussi, ils ont tenté de couper la liaison entre les forces armées de la République démocratique du Congo sur la route qui quitte Rutshuru vers Bounagana, au lieu communément appelé Premier 10. Et à l'heure actuelle, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont comportées professionnellement. On a déjoué cette tentative de couper des liaisons, mais aussi nous les avons repoussées à Bigega 1 et Bigega 2. À l'heure actuelle, l'ennemi recule davantage vers Tchanzu et Runyoni et cet ennemi continue à subir la pression des forces armées de la République démocratique du Congo. Vu que cet ennemi ne respecte pas le droit international humanitaire, donc que la population se mette à l'abri et qu'elle continue à avoir confiance à son armée et la situation est en train de s'améliorer.
Par ailleurs, le lieutenant-colonel Njike Kaiko révèle que l'armée reçoit l'appui de son partenaire, la MONUSCO, contre le M23. La MONUSCO maintient en effet ses bases temporaires en état d'alerte. Elle a lancé des patrouilles de combat dans la région en vue de protéger les déplacés internes et sécuriser la zone, affirment les responsables de la mission onusienne. Par ailleurs, 4 civils ont été tués et une moto triporteur incendiée. Bilan d'une incursion des EDF la journée d'hier dans la localité de Maïmoya, groupement Bambou Bakissi. Qui dans le territoire de Beni. Nous sommes toujours au Nord Kivu. La société civile qui livre l'information parle de 3 villages attaqués le même jour. Il s'agit de Linz au Sissiené, Opira et Kimangu, ce qui a causé le déplacement massif de la population vers des zones sécurisées. Bravo Vukulu, président de la société civile dans la région, demande à l'armée de renforcer ses effectifs dans ce groupement, étant donné que l'ennemi rôde actuellement autour de Eringeti, Kokola et Maïmoya, 3 grandes agglomérations du groupement Bambou Bakissi. Cette situation sème la terreur au sein de la population locale. Au sud Kivu voisin, 3e et dernier jour, vendredi dans la ville d'Uvira, des audiences publiques sur le dossier opposant le ministère public à Jacques Rukabo. Cet agent de la police nationale a été condamné à 10 ans de servitude pénale pour meurtre et au paiement à titre de frais d'instance de l'ordre de 200 000 francs congolais. Il est accusé d'avoir tué par balle un civil et blessé 6 autres personnes le mardi lors des échauffourées à Kalimabenge à Uvira. Fiston Ngoma nous en dit plus.
Le tribunal militaire a établi toutes les infractions retenues contre l'agent de la police Jacques. 10 ans de servitude pénale, cette peine lui a été rattachée à l'incrimination de meurtre par le fait conjugué en concours idéal et matériel. Le condamné a bénéficié des circonstances atténuantes dues entre autres à son esprit coopératif avec le tribunal, à sa délinquance primaire, le poids de son âge et sa famille nombreuse ainsi que les services qu'il a rendus à la nation. Le premier substitut de l'auditeur militaire de garnison, le magistrat Douglas Nicolas Banzé.
Il est dans la police depuis 2010. Il avoisine déjà plus de 55 ans d'âge. Il n'a aucune formation de la police. Il n'a jamais appris à tirer. C'est ainsi qu'il n'a pas pu faire la différence entre un tir non dangereux et un tir dangereux. Et malheureusement, dans ce cas d'espèce, il a tiré dans la foule, causant ici la mort de M. Senga et blessé 6 autres personnes. Aux éléments des phares d'essai de la police, de ne plus jamais commettre ce genre de choses. Ils doivent adopter un comportement responsable et mettre en tête que la police a une obligation légale ou régalienne de protéger la population et ses biens, et non pas de tirer dans la foule.
Les condamnés à 5 jours d'interjeté appel. Douvira Fiston Mamayaba, la Radio Okapi.
Et puis, le député national Olive Moudekereza lance un appel à ses collègues et aux hommes de bonne volonté afin d'apporter leurs contributions spontanées aux travaux communautaires et autres initiatives locales pour le développement de leur milieu. Dans un point de presse hier à Kinshasa, l'élu de Walungu au Sud Kivu a également appelé ses collègues à contribuer symboliquement pour appuyer les FARDC engagés à en finir une fois pour toutes avec le M23 appuyé par le Rwanda. Les propos du député national Olive Moudekereza ont été recueillis par Fulbert.
Nous encourageons et nous soutenons notre armée, le FARDC, de défendre notre nation, surtout ce qui se passe à l'Est. Et nous encourageons l'initiative de la société civile. Et nous avons aussi parlé de ça au niveau du Parlement, que chaque député puisse contribuer, même infrasymbolique, 100 dollars ou quelque chose, et tous les citoyens de l'Est, un carton d'eau, un carton de biscuits, symboliquement, ça, on met ça ensemble et nous montrons à notre armée que nous sommes derrière eux, nous les appuyons, nous participons, nous contribuons à défendre notre nation, notre territoire. Vraiment, nous sommes de cœur avec eux et toute personne de bonne volonté pour que notre pays soit un pays de paix, un pays qui a l'avenir de la nation africaine et pas du monde. C'est ça le pays. Solution, c'est la RDC. Soyons unis dans tous les travaux et dans toutes les initiatives locales de développement. Merci.
Je vous le disais en titre, le couple royal belge a séjourné ce dimanche à Bukavu en provenance de Lubumbashi, une visite de quelques heures au sud Kivu, principalement à l'hôpital de Panzi du docteur Denis Mukwege. Reportage de Emmanuel Elamiji Wakabedi.
Le roi Philippe est arrivé au sud Kivu par l'aéroport de Kavumu ce dimanche 12 juin à 10h locale. Au bas de la passerelle, Jean-Michel Sama Lukonde, premier ministre congolais, avec d'autres membres du gouvernement central, dont le ministre de budget, celui de la santé ainsi que de la communication et médias, mais aussi du gouverneur de province du sud Kivu. L'étape de l'hôpital de Panzi consiste à visiter Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, et quelques femmes victimes de violences sexuelles. Le séjour du couple royal belge se clôture ce même dimanche à Bukavu par la visite de l'Institut international de l'agriculture tropicale IITA sur le site de Kalambo, un laboratoire agricole qui porte le nom de Olusegun Obasanjo. Ici, le roi Philippe doit rencontrer la communauté belge vivant dans l'est de la RDC. Signalons que les Belges avaient opté de construire la ville de Bukavu à son emplacement actuel sur le lac Kivu pour des raisons stratégiques. Après 1960, Bukavu a hérité de l'administration belge plus de 220 maisons de fonctionnaires de l'État, mais aussi d'importantes infrastructures scolaires. Aujourd'hui, toutes ces infrastructures sont soit spoliées, soit délabrées. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Okapi.
Comme vous venez de l'entendre, le roi Philippe a visité l'hôpital de Panzi où travaille le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. Outre ses missions de soins classiques, cette institution de santé est surtout réputée mondialement pour la chirurgie reconstructive pratiquée par le docteur Mukwege, mais aussi pour son modèle de guérison pour les survivantes des violences sexuelles. Mais en quoi consiste ce modèle mondialement reconnu et dupliqué dans plusieurs pays? Combien des survivantes des violences sexuelles en ont bénéficié et avec quel impact? De réponse avec Cynthia Bachizi.
One Stop Center, c'est le modèle de Panzi centré sur tous les besoins des victimes. Il repose sur quatre piliers. Docteur Rukungu Nehema, chargé de la réplication de cette prise en charge holistique à l'hôpital de Panzi.
Au niveau médical, on estimait qu'on avait fait tout ce qu'on devait faire. C'est après qu'on s'est rendu compte que c'était un problème psychologique avec toute la somatisation. La plupart des survivants qui arrivaient avaient des problèmes où on avait tout pillé chez eux. Même le problème psychologique, pour y répondre à 100%, on devait répondre à cette question socio-économique. Après la réinsertion des premières victimes, il y a eu les anciennes qui rentraient pour dire « je connais en fait la personne qui m'avait fait ça ». Et donc, le besoin de justice s'est fait ressentir.
Selon Dr Hukungu, depuis 1999, presque 68 000 survivantes des violences sexuelles ont été prises en charge sur le plan médical et psychosocial. Leur âge varie entre 6 mois et 80 ans. Quid de deux autres piliers ?
Sur le plan socio-économique, actuellement, nous comptons 252 mutuelles de solidarité. Nous avons à peu près 811 associations villageoises d'épargne et de crédit. Sur le plan juridique, actuellement, nous avons 24 cliniques juridiques à travers le pays et la création même des groupes pour la masculinité positive.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
En plus bref, sachez que le pape a demandé pardon aux populations et autorités de la RDC et du Soudan du Sud pour avoir reporté son voyage prévu en juillet prochain. C'était au cours de l'Angélus de ce dimanche. Dans un message diffusé, vidéo diffusée abondamment sur plusieurs médias en ligne, le Saint-Père dit tenir à ce voyage. Rappelons que le pape François devrait effectuer un voyage apostolique en RDC du 2 au 7 juillet prochain. Il devait arriver à Kinshasa et se rendre à Goma, mais le voyage a été annulé sur les conseils de ses médecins pour raison de santé. Direction Kindu. La province du Maniema dispose désormais d'un comité technique provincial de mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Ce comité a été installé vendredi à Kindu à l'issue d'un forum de 3 jours ayant réuni les cadres de l'EPST, de l'enseignement supérieur, des affaires sociales et ceux de la formation professionnelle, métier et artisanale. Ce comité a pour mission, entre autres, de s'assurer de l'état d'avancement de la mise en œuvre ordonnée et cohérente au niveau provincial des réformes inscrites dans le plan quinquennal de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Explication avec Florence Kizalunga.
Ce comité de 26 membres sera dirigé par le ministre provincial de l'éducation. L'autorité provinciale qui les a installés les exhorte à créer un climat de collaboration entre acteurs pour l'intérêt des enfants du Maniema, comme l'a dit Marcel Lembalemba, commissaire provincial en charge de l'intérieur, qui représentait le gouverneur.
Je vous exhorte donc à créer un climat de collaboration sincère entre acteurs pour terminer. Le gouverneur de la province du Maniema n'hésitera pas de prendre un arrêté pour le fonctionnement harmonieux du dit comité.
Satisfaits, les participants ont formulé quelques recommandations.
Au comité technique provincial, de prendre à bras les corps les objectifs pour la mise en œuvre de la mission lui dévolue. Aux bailleurs, d'accompagner les comités mis en place dans la réalisation de l'ODD 4. Au gouvernement provincial, de prendre en compte les recommandations du comité installé et d'accompagner dans toutes les demandes possibles, intégrer les budgets proposés par les comités dans les 10 budgétaires.
Signalons que plus de 50 personnes ont pris part à ce forum financé par UNICEF. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Et à Goma, le gouvernement provincial du Nord Kivu a organisé hier une caravane motorisée. C'est en marge de la célébration décalée de la Journée mondiale de l'environnement, journée célébrée le 5 juin de chaque année. Objectif, sensibiliser la population du chef-lieu du Nord Kivu sur l'importance de protéger l'environnement. À cette occasion, plusieurs centaines d'arbres ont été plantés au port public de Goma, ainsi que des tonnes d'immondices dégagées, notamment à la décharge publique du marché communément appelé Alanine dans la commune de Goma. Jules Ngala, reportage.
La caravane motorisée est partie du bureau du gouverneur de province jusqu'au port public de Goma. Ici, le coordonnateur provincial de l'environnement a procédé à la plantation symbolique de plusieurs plantules d'arbres. Après quoi, le convoi a poursuivi sa route le long du lac jusqu'au marché Alanine à Katindo pour dégager la grande décharge publique qui ne faisait que s'accumuler. Les marchands mobilisés apprécient l'action de l'autorité, mais lui recommande d'élaborer un calendrier régulier pour vider la dite décharge. Cette journée a été célébrée cette année sous le thème « Sauvons la biodiversité, ensemble préservons la nature, une seule terre ». Goma, Jules Galawamona, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Mali. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a signé un décret dans la nuit de vendredi à hier samedi, décret portant création de la commission de rédaction de la nouvelle constitution. Les membres de cette commission qu'il va nommer vont travailler sous son autorité pour présenter un avant-projet de loi portant constitution du Mali dans le cadre de la refondation. Ceci intervient 5 jours après l'annonce d'une nouvelle transition d'une durée de 24 mois. Un double message y figure. D'abord, il faut aller vite car la montre tourne, mais il y a également dans la démarche des militaires une stratégie, celle de continuer à discuter de la levée des sanctions avec les partenaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO.
L'invité.
Il nous vient du Nord Kivu. Les autorités politico-administratives et sécuritaires ainsi que les acteurs de la société civile et de la protection civile de Butembo et Lubero se sont réunis mardi à Butembo. Objectif, évaluer le système d'alerte précoce mis en place au sein de la communauté en vue de protéger la population de l'insécurité dans la région. Ce système est constitué notamment des outils et du personnel mis en place par le gouvernement et ses partenaires dans la MONUSCO. Pour en parler, nous recevons César Matumo, coordonnateur intérimaire de la protection civile à Butembo. Il parle de ce mécanisme et son efficacité dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
César Matumo, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous pouvez nous dire en un mot quels sont les outils de protection que vous disposez en tant que protection civile en ville de Butembo?
Comme vous le savez, le système d'alerte précoce, c'est un outil de la prévention des risques. Parce que pour prévenir un incident, celui qui est appelé à intervenir doit posséder les formations à temps. C'est ce que nous sommes en train d'évaluer ces outils. Au niveau de la MONUSCO, il y a des comités locaux de protection qui sont implantés partout en ville de Butembo. Au niveau de la protection civile, il y a les numéros verts qui sont mis à la disposition de la population, mais il y a aussi des observateurs communautaires qu'on forme dans les périphéries de la ville, même dans les territoires de Lubero, civils comme policiers qui sont formés, dotés, en fait, d'alerter l'autorité à temps utile, afin que l'autorité intervienne avant que le pur n'arrive.
Alors, vous avez évoqué des numéros verts qui sont mis en place par la MONUSCO. Qui gère ces numéros?
Ce sont les gens qui vivent dans la communauté, qui maîtrisent bien la communauté, la cartographie, qui maîtrisent la langue de la communauté. Ce sont qui détiennent ces numéros afin de remonter les formations aux partenaires de réponse, aux partenaires d'assistance qui sont les autorités qui doivent intervenir pour prévenir tout incident.
Par exemple, il y a un cas d'incursion des bandits dans mon quartier et moi je prends le numéro vert, j'appelle pour intervention et celui qui me reçoit devra être qui?
Au niveau de la MONUSCO, il y a déjà des points focaux dans tous les quartiers. Au niveau de la protection civile, il y a déjà un numéro vert qui est géré au niveau de Goma mais qui couvre toute la province du Nord Kivu. Et ce numéro au niveau la protection civile, c'est 082 08 00 001. Celui d'Airtel, c'est le 09 99 00 405. Ça, c'est le Airtel. C'est détenu à Goma par toute une équipe qui veille jour et nuit afin de remonter les informations qui viennent de la base. Parce qu'au niveau de la base, il y a des observateurs communautaires qui doivent, n'est-ce pas, remonter les informations. Et toute la population est appelée à remonter les informations. Parce que le numéro, il est vert. C'est-à-dire que c'est le destinataire, c'est celui que tu appelles qui paye la facture. C'est-à-dire que tu peux faire un message avec ce numéro, tu peux faire un appel avec ce numéro et c'est géré au niveau de Goma.
Alors, ne voyez-vous pas que le système est assez lourd? Parce que moi, j'appelle de Butembo. L'intervention efficace, c'est à Butembo. Mais celui qui reçoit l'appel est à Goma.
Effectivement, comme j'ai eu à le dire, c'est un système. Tous les partenaires à la réponse sont dans ce système-là. Comme un système WhatsApp. Quand vous êtes dans un groupe WhatsApp, quand une information tombe, au moment où vous êtes informé si vous êtes connecté. Donc c'est aussi une plateforme où toutes les autorités sont dedans. Donc bien que géré à Goma, il y a toute une cartographie numérique. L'AT est connecté, les maires sont connectés et toutes les autorités à différents niveaux sont connectées. Il n'y a pas de question de lourdeur. Et d'ailleurs, ça permet vite un suivi. Au moment où la personne qui doit intervenir à la base est informée, au moment où son chef hiérarchique, qui est le gouverneur, est informé. Et ce système est installé au Nord Kivu, dans l'Ituri, au Sud Kivu, dans le Haut-Katanga et dans la Tchop.
La plupart des fois, il y a des habitants qui disent appeler ces numéros verts, mais l'intervention vient souvent le lendemain pour constater les dégâts. D'où vient cette lourdeur-là en termes d'intervention?
C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, ensemble, nous qui intervenons dans le système d'alerte précoce, du côté gouvernement, la protection civile, du côté partenaire, Monisco, ABEA et tous les autres, nous sommes en train de nous regarder dans les yeux pour nous évaluer. Donc, s'il y a des réponses qui tardent à venir, c'est qu'il y a un problème de performance. Mais il y a aussi des alertes qui sont répondues. Et quand une alerte est répondue, ce n'est pas à dire que tout le village saura qu'on a répondu à une alerte. Donc, ça a une dimension de renseignement, ça a une dimension de confidentialité. Même quand l'alerte remonte, ce n'est pas toute la communauté qui sera au courant que X ou Y a remonté l'information. Donc, il y a une confidentialité. C'est ça la valeur du système d'alerte précoce de la protection civile.
Que dites-vous de ces alertes qui sont lancées sur les réseaux sociaux par les membres de la communauté?
Les acteurs qui sont dans la communauté, ils doivent savoir maintenant capitaliser ces informations et les canaliser dans une bonne voie. Ça peut être dans un groupe WhatsApp ou même l'autorité n'est même pas membre. Sinon, ça ne va pas produire des effets. Donc, les alertes, c'est une bonne chose, mais il faut les faire dans une bonne voie.
La bonne voie, ça veut dire?
Il faut atteindre l'autorité par le numéro d'alerte, qui sont les numéros verts de la protection civile. C'est le 0422-08-00001, le 09-99-00-405. Pour la ville de Butembo, voilà les numéros verts de la protection civile. Il y a aussi les numéros verts de la police qui vous sont toujours communiqués.
César Matoumo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le coordonnateur intérimaire de la protection civile à Butembo répondait aux questions de Sadiq Yaboubakar. C'est la fin de ce journal coordonné par Pierrot Elameji. À la technique, Jean-Noël Mokondo-Yogo et devant ce micro, Belinda Bosuma. Merci de nous avoir suivis. Okapi Sport continue avec Enoch Matondo Mvuezolo et Dieudonné Joseph Kabeangalula.